Chapitre 37. Les ténèbres dans la tour. Dans les jardins du palais à Kemlin, Gawain avait pris place sur un banc. Des heures plus tôt, il avait renvoyé la messagère d'Egwen. Depuis, la lune gibbeuse était apparue dans le ciel. De temps en temps, des domestiques venaient voir si le prince n'avait besoin de rien. Tous semblaient très inquiets pour lui, mais tout allait bien. Il avait simplement envie de contempler le ciel. Depuis des semaines, il n'en avait pas eu le temps. La brise se rafraîchissait. Pourtant, son manteau était toujours plié sur le dossier du banc. Sous un ciel dégagé, l'air sentait très bon, bien plus que sous une couverture nuageuse en tout cas. Alors que la nuit remplaçait le crépuscule, les premières étoiles se montraient, brillant timidement à présent que la fureur de la journée se calmait un peu. Quel bonheur de revoir les astres nocturnes! Ravi, Gawain inspira à fond. Elaine avait raison. S'il haïssait Altor, c'était à cause d'une forme de frustration, voire de jalousie. Car ce fermier jouait un rôle que le fils de Morgas serait bien vu attribuer. Diriger des nations, commander des armées. Si on comparait leur vie, qui était le prince et qui avait tout l'air d'un fichu berger complètement perdu? S'il avait rejeté la demande d'Egwen, était-ce parce qu'il voulait être celui qui commande? Le héros dont on applaudit les exploits? S'il devenait le champion de la jeune dirigeante, il devrait se tenir dans l'ombre et l'aider à changer le monde. Protéger une personne importante n'était pas une honte. Au contraire, il s'agissait d'un très grand honneur. Quel était l'objectif des actes vraiment héroïques? Valoir une renommée à leur hauteur ou améliorer la vie du plus grand nombre? Mais quand même, rester dans l'ombre. S'il admirait les hommes comme Sleet pour leur humilité, il ne les avait jamais compris. « Je ne peux pas abandonner Egwen. Il faut que je l'aide. Même si ça implique de vivre dans son ombre. » Parce qu'il l'aimait, bien entendu. Mais aussi parce que ça s'imposait. Quand deux bardes chantaient des chansons différentes en même temps, ça produisait une cacophonie. Dès que l'un acceptait de soutenir la mélodie de l'autre, la beauté revenait. Plus formidable encore parce qu'elle naissait de deux volontés unies. À cet instant précis, Gawain comprit enfin. Du coup, il se leva. Il ne pouvait pas retourner auprès d'Egwen en restant un prince. S'il la rejoignait, ça devrait être sous l'identité d'un champion. Il devait la servir et veiller sur elle, s'assurer que ses désirs seraient des ordres. Bien, il était temps de partir. Une fois son manteau enfilé, Gawain prit le chemin du palais. Sur son passage, les crapauds se turent, et le silence régna jusqu'à ce qu'il soit entré dans le complexe. Jusqu'aux appartements de sa sœur, le chemin ne serait pas bien long. Elaine serait réveillée, car elle avait du mal à s'endormir ces derniers temps. Le soir, en buvant une bonne infusion, il leur était souvent arrivé de converser des heures. Hélas, devant la porte de la reine, Birgit se campa comme un molosse. Et bien entendu, elle foudroya Gawain du regard. D'accord, elle détestait devoir être capitaine général à sa place, il le comprenait à présent. Mais de là à vouloir l'intimider... Birgit leva une main.
« Pas ce soir, petit prince. Je pars pour la Tour Blanche, et j'aimerais dire au revoir à ma sœur. »
Gawain voulut avancer, mais Birgit lui plaqua une main sur le torse et le repoussa gentiment.
« Tu peux partir demain matin. »
Gawain faillit dégainer son épée, mais il s'en abstint de justesse. Lumière. Par le passé, il ne réagissait pas si violemment à tout. Il fallait se résigner. Il était devenu un imbécile.
« Demande-lui si elle veut me voir, s'il te plaît. J'ai des ordres. De toute façon, elle ne pourrait pas te parler parce qu'elle dort. Je suis sûr qu'elle aimerait être réveillée. »
Ce n'est pas ce genre de sommeil.
Birgit soupira.
Des affaires d'Aes Sedai, tu comprends? Va te coucher. Demain matin, ta sœur aura sûrement des nouvelles d'Egwen à te donner.
Gawain plissa le front. Comment? Les rêves, bien sûr. C'est ce que veulent dire les sœurs quand elles évoquent Egwen les formant à marcher dans les songes.
Donc Egwen dort aussi?
Birgit se rembrunit.
Par le sang, les cendres! Je t'en ai déjà trop dit. File dans ta chambre.
Gawain s'éloigna, mais pas en direction de sa chambre.
« Le tueur attendra un moment de faiblesse, » pensa-t-il, se souvenant des propos de la Souldame. « Et quand il frappera, il fera un massacre. Un moment de faiblesse. »
Remontant les couloirs, Gawain courut jusqu'à la pièce de voyage qu'Hélène avait fait aménager. Par bonheur, une femme de la famille était encore de service à cette heure tardive. Les yeux rouges de fatigue, mais prête à agir s'il fallait envoyer d'urgence un message. Gawain ne reconnut pas la femme aux cheveux noirs. En revanche, elle l'identifia sans peine. Non sans bâiller, elle ouvrit un portail pour le prince, qui le traversa et déboula sur le site de voyage de la Tour Blanche.
Alors que le portail se refermait derrière lui, il se lança au pas de course en lâchant un juron. Ce fichu passage avait failli le couper en deux. Pourquoi la femme aux cheveux noirs avait-elle agi si vite en prenant un tel risque? À une seconde près, il y aurait au moins laissé un pied. Ce n'était pas le moment de penser à ça. Gawain accéléra encore le rythme. Egwene, Léane et les matriarches se matérialisèrent dans une salle du rez-de-chaussée de la tour. Des sœurs mortes d'inquiétude les y attendaient. Ce poste de garde, Egwene avait bien précisé, devrait servir de position de repli.
« Au rapport !»
ordonna la jeune dirigeante.
« Shevan et Carlinia sont mortes, mère !»
dit Saerin, sinistre. La sœur marron, aux manières brusques, haletait.
« Que s'est-il passé ?»
demanda Egwene.
« Nous étions en plein milieu de notre comédie, évoquant un complot fantaisiste pour amener la paix en Arad-Doman, comme tu nous l'avais ordonné. Soudain,
des flammes !»
enchaîna Morvryn, encore secouée.
« Elles ont traversé les murs, des femmes canalisées avec une incroyable puissance. J'ai vu Alviarine et d'autres sœurs aussi.
Ninevée est toujours en haut, »
précisa Brendas.
« Sacrée tête de pioche !»
lâcha Egwene, en regardant les trois matriarches qui acquiescèrent.
« Envoyez Brendas hors du monde des rêves. Toi, dès que tu seras réveillé, file tirer du sommeil toutes les femmes qui sont ici. Ça les mettra hors de danger. Ne laisse que Ninevée, Siouan, Léane et moi.
Compris, mère, »
dit Brendas. Amis fit quelque chose qui la priva d'une bonne partie de sa substance.
« Les autres, »
dit Egwene,
« allez dans un endroit sûr, loin de la ville. »«
Très bien, mère, »
fit Saerin, mais elle ne bougea pas.
« Quoi ?»
demanda Egwene.
« Mère, je ne peux pas partir. Quelque chose ne va pas. »«
C'est impossible !»
cria Baer.
« C'est... »
« Baer, »
dit Amis.
« Je ne peux pas partir non plus. Il y a un gros problème. Le ciel est violet. »
annonça Yukiri, après avoir jeté un coup d'œil par une petite fenêtre.
« Lumière ! On dirait qu'un dôme recouvre la tour blanche et la ville. Quand est-ce arrivé ?»«
C'est très inquiétant !»
souffla Baer.
« Nous devrions nous réveiller !»
Amis se volatilisa soudain, faisant sursauter Egwene. Elle réapparut quelques secondes plus tard.
« J'ai pu gagner l'endroit où nous étions avant de venir ici, mais impossible de quitter la ville. Egwene Alvéré, je n'aime pas ça du tout !»
Egwene tenta de se projeter aux Kaerienne, mais ça ne réussit pas. Alors, elle regarda par la fenêtre, inquiète mais déterminée. Oui, dehors, on voyait du violet.
« Réveillez-vous si vous pouvez !»
dit-elle au matriarche.
« Moi, je me battrai. Un des rejetés est ici. »
Les matriarches se consultèrent du regard.
« On vient avec toi !»
finit par dire Mélaine.
« Parfait. Les autres, partez d'ici. Allez dans la rue des musiciens et restez-y jusqu'à ce que vous soyez réveillés. Mélaine, Amis, Baer et Léane, nous filons dans une pièce située plus haut dans la tour. Les murs sont lambrissés et on y trouve un lit à baldaquin avec une moustiquaire. C'est ma chambre. »
Les matriarches hochèrent la tête. Egwene se projeta chez elle. Sur la table de nuit, il y avait une lampe, mais elle ne brûlait pas. Ici, en tout cas, parce que dans le monde réel, elle l'avait laissée allumée. Les matriarches et Léane apparurent autour d'Egwene. Leur venue fit osciller la moustiquaire du lit. La tour trembla soudain. Le combat continuait.
« Soyez prudente !»
dit Egwene.
« Nous traquons des adversaires qui connaissent ce terrain bien mieux que vous. »«
Nous ferons attention !»
répondit Baer.
« On raconte que les rejetés se croient les maîtres de Telaran Riod. Eh bien, nous verrons bientôt si c'est vrai. »«
Léane, tu t'en sortiras ?»
demanda Egwene. Elle avait été tentée de renvoyer la sœur dans le monde réel, mais avec Siouan, elle avait passé beaucoup de temps dans celui des rêves. En matière d'expérience, on ne trouvait pas mieux.
« Je rentrerai la tête dans les épaules, mère, »
répondit Léane.
« Nos adversaires étant plus nombreuses que nous, tu auras besoin de mon aide. J'admets que c'est vrai. »
Les quatre femmes se volatilisèrent. Pourquoi Egwene ne pouvait-elle pas quitter la tour? C'était troublant, mais également utile. Bien sûr, ça signifiait qu'elle y était coincée. Mais Messana aussi, avec un peu de chance. Chassés du bord du toit, cinq pigeons s'envolèrent. Perrine se retourna. Tueur était derrière lui, son odeur rappelant celle de la pierre. L'homme, aux yeux durs, regarda les oiseaux prendre leur envol.
« C'est toi qui les as créés ? »
demanda-t-il.
« Pour m'alerter, oui, »
répondit Perrine.
« J'ai supposé que tu n'aurais pas écrasé des coquilles de noix semées sur le sol.
» Bien raisonné, » admit Tueur. Derrière l'homme s'étendait une cité magnifique. Aussi splendide que Kemlin, fut bien obligé de reconnaître Perrine. Ça semblait incroyable, mais Tarvalon s'avérait au niveau de la capitale du royaume d'Andorre.
une œuvre d'art géante. Presque chaque bâtiment rehaussé par des arches, des flèches, des sculptures et d'autres ornements. Même les pavés étaient configurés d'une manière artistique. Tueur baissa les yeux sur la ceinture de Perrine, où le jeune homme avait créé un étui spécial pour y ranger le terrain gréal. La pointe d'argent dépassait, tel le bout d'une natte ou d'une tresse. Une nouvelle fois, Perrine avait tenté de détruire l'artefact par la force de l'esprit, mais il n'y était pas parvenu. Les coups de marteau s'étaient eux aussi avérés inutiles. Quoi que soit cet objet, il était conçu pour résister à tout.
« Tu es devenu très bon, » dit Tueur. « J'aurais dû me débarrasser de toi il y a des mois. »
« Il me semble que tu as essayé, »
fit Perrine, en posant son marteau sur son épaule.
« Qui es-tu vraiment ?»«
Un homme qui appartient à deux mondes, Perrine Aibara, et possédé par les deux. Il faut que la pointe des rêves retourne à sa place.
« Avance d'un pas, et je la détruirai !»
menaça Perrine. Tueur ricana et avança.
« Tu n'es pas assez fort pour ça, mon garçon. » Moi-même, je ne pourrais pas le faire.
Le regard de Tueur se riva sur quelque chose, derrière l'épaule de Perrine.
Le pic du dragon,
comprit le jeune homme.
Il a craint que j'y aille pour jeter l'artefact dedans.
Était-ce une indication sur la manière de détruire le terrain gréal? Ou Tueur tenta-t-il de l'abuser?
Ne me cherche pas, petit,
grogna-t-il, une épée et un couteau apparaissant dans ses mains.
Aujourd'hui, j'ai déjà tué 4 loups. Donne-moi la pointe.
4 loups? Perrine n'avait vu qu'un mort parmi ses compagnons.
« Il essaie de m'impressionner. »«
Tu veux me faire croire que tu m'épargneras si je te donne cet objet? Si je le fais, tu iras le replanter au Gealdan, et moi je te suivrai. »
Perrine secoua la tête.
« Un de nous deux doit mourir. C'est inévitable. »
Tueur hésita, puis il sourit.
« Luc te déteste, sais-tu? Il te hait du fond du cœur. »«
Et pas toi ?»
s'étonna Perrine.
« Pas plus qu'un loup déteste un cerf. »
« Mais tu n'es pas un loup !»
fit Perrine en dévoilant ses dents. Tueur haussa les épaules.
« Dans ce cas, finissons-en !»
Il chargea comme un fou. Gawain courait si vite dans les couloirs que les sentinelles avaient à peine le temps de le saluer. Une lampe sur deux qu'il dépassait était éteinte, histoire d'économiser l'huile. Alors qu'il atteignait une rampe qui lui permettrait de monter dans la tour, il entendit des bruits de pas derrière lui. Il dégaina son épée, ralentit et se retourna. Madzon et Selark s'immobilisèrent aussi. Désormais, les anciens jeunes gardes portaient un uniforme de la tour. Ces types allaient-ils tenter de l'arrêter? Comment savoir quels ordres Egwene avait donnés? Ils saluèrent Gawain.
« Vous faites quoi, les gars ?»
demanda celui-ci.
« Chef, »
répondit Selark, le visage dans l'ombre.
« Quand un officier court à cette vitesse avec une telle expression sur le visage, on ne se demande pas s'il a besoin d'aide. On le suit, tout simplement. »
Gawain eut un grand sourire. «
Alors venez !»
Il s'engagea sur la rampe, les deux hommes sur les talons, épée au clair. Les appartements d'Egwene étant très en hauteur, le cœur du prince battait la chamade lorsque ses compagnons et lui atteignirent le bon niveau. Ils descendirent 3 couloirs, puis Gawain leva une main et sonda les ombres les plus proches. Était-elle assez sombre pour dissimuler un couteau du sang? Pointant la tête au coin du couloir, Gawain étudia la porte de la chaire d'Amyrlin. À peu de choses près, il se trouvait dans la même position que lorsqu'il avait ruiné ses plans quelques jours plus tôt. Était-il en train de commettre la même erreur? Ses deux compagnons se tenaient derrière lui, attendant ses ordres. Oui, il risquait de faire la même erreur. Pourtant, quelque chose avait changé. Aujourd'hui, il était prêt à protéger Egwene pour qu'elle accomplisse de grandes choses, alors qu'il resterait dans son ombre. Cette mission le rendrait même très fier. Prêt à s'acquitter de tout ce qu'elle lui demanderait, il assurait sa sécurité à n'importe quel prix. Parce que c'était le devoir d'un champion. Il avança sur la pointe des pieds et fit signe à ses hommes de le suivre. Dans l'alcôve, l'obscurité ne semblait pas vouloir échapper à son attention cette fois. Un bon signe. S'arrêtant devant la porte, il fit jouer la poignée. Le battant n'étant pas verrouillé, il se glissa à l'intérieur du fief de la jeune dirigeante. Aucune alarme et pas l'ombre d'un maudit piège. Sur les murs, quelques lampes brûlaient. Entendant un bruit, Gawain leva les yeux. Une servante de la tour lévitait dans les airs. Se débattant, les yeux écarquillés, elle portait bien entendu un bâillon d'air. Gawain jura, traversa la pièce et ouvrit la porte de la chambre d'Egwene. Le lit de la jeune femme, couvert d'une moustiquaire, se trouvait sur la droite. Sur la table de chevet, une lampe brûlait. Gawain avança et écarta la moustiquaire. Egwene dormait-elle ou... Il tendit une main vers sa carotide, mais un petit bruit retentit derrière lui. Levant son épée, il parvint à dévier le coup qui visait son dos. deux silhouettes sombres sortir de l'obscurité. Gawain examina brièvement Egwene. On ne voyait pas de sang, mais impossible de dire si elle respirait encore. Les assassins avaient-ils été interrompus par l'irruption du jeune homme? Il n'avait pas le temps de s'apesantir là-dessus. Adoptant une position appelée « fleur de pommier dans le vent », il appela au secours. Ses hommes se découpèrent dans l'encadrement de la porte et se pétrifièrent.
« Allez chercher des renforts !»
cria Gawain.
« Vite !»
Madzon fila exécuter cet ordre. Selarc, lui, plongea dans la mêlée. Les couteaux du sang dansaient et ondulaient comme des serpents. Exécutant un chat sur du sable chaud, Gawain n'obtint aucun résultat, sinon zébrer stupidement l'air. À force d'essayer de suivre les évolutions de ses adversaires, il avait mal aux yeux. Selarc les attaqua par derrière et fut aussi inefficace que son ancien chef. Adossé au lit, Gawain serra les dents et continua à se battre. Il devait tenir ses tueurs loin des Gwen, le temps que les renforts arrivent. S'il avait pu... Les deux ombres se retournèrent en même temps et attaquèrent Selarc. En un éclair, une lame ouvrit la gorge du pauvre gars et un flot de sang en jaillit. Gawain cria de rage, puis il opta pour un lézard dans un buisson d'épineux et visa le dos des tueurs. De nouveau, il ne toucha rien, mais il n'était pas passé loin, aurait-il juré. Selarc s'écroula, la lumière des lampes se reflétant sur son sang. S'il avançait pour le protéger, Gawain exposerait Egwene. Alors que son complice décapitait Selarc, un des tueurs se tourna vers le prince et exécuta ce qui semblait être une rivière qui mine la berge. Avec si peu de lumière, c'était difficile à dire. Mais il semblait bien s'agir de cette figure. Gawain esquiva, tout en gardant un œil sur le pauvre Selarc. Défendre. C'était tout ce qu'il avait à faire en attendant les secours. Il se décala sur un côté. Les Séanchaniens se méfiaient, sans doute parce qu'ils savaient qu'il avait déjà tenu tête à l'un des leurs. Mais là, ils avaient un énorme avantage. Contre deux d'entre eux, Gawain se donnait peu de chance.
« Pourtant, tu vas réussir. Si tu meurs, Egwene mourra aussi. »
N'y avait-il pas des mouvements dans la pièce adjacente? L'arrivée des renforts? L'espoir lui redonnant du cœur au ventre, Gawain se décala un peu plus, pour voir de quoi il retournait. Madzon gisait sur le sol, et il pissait le sang. Une troisième ombre entra dans la chambre, ferma la porte, et la verrouilla. Voilà pourquoi les deux autres couteaux de sang avaient temporisé. Ils attendaient leur complice. Le trio attaqua avec un bel ensemble. Perrine laissa la bride sur le cou au loup tapis en lui. Pour une fois, il ne se demanda pas quelles seraient les conséquences. Il renonça à tout contrôle, et tandis qu'il se battait, le monde autour de lui sembla être de nouveau normal. Peut-être parce qu'il se pliait à sa volonté. Jeune taureau sauta d'un toit de Tarvalon, ses pattes arrière puissantes le propulsant dans les airs. L'étui du Terangréal attaché dans son dos, il survola une rue et atterrit sur un toit de marbre blanc bordé de statues sur tout son périmètre. Il effectua un roulé-boulé, reprit sa forme humaine et se releva, marteau entre les mains et Terangréal accroché à sa taille. Tueur disparut juste avant que le marteau lui fasse exploser le crâne. Puis il se matérialisa près de Perrine, qui se volatilisa à son tour, avant de réapparaître sur la gauche de son adversaire. Un ballet de mort, avec des apparitions et des disparitions en série, ponctué de coups toujours esquivés au dernier moment. Sortant de ce cycle, Perrine se décala pour se retrouver à côté d'une des grandes statues, un général à l'air particulièrement pompeux. Il frappa, visant l'œuvre d'art, et des éclats de marbre volèrent jusqu'à Tueur. Alors qu'il s'attendait à voir Perrine se matérialiser à côté de lui, le meurtrier de danse avec les chaînes dut faire face à une pluie de pierres et de poussière. Quand des éclats de marbre lui entaillèrent la peau, Tueur beugla de rage. Puis son manteau devint soudain aussi dur que du fer et dévia les projectiles. Sur un geste de Tueur, le bâtiment trembla sur ses fondations. Non sans jurer d'abondance, Perrine sauta quelques secondes avant que le toit s'écroule. En plein vol, il redevint un loup, puis atterrit sur un toit voisin. Tueur apparut devant lui, son arc armé. Le jeune homme imagina qu'un vent terrible balayait le toit, mais Tueur ne lâcha pas sa flèche, comme s'il était lui-même une statue. Une statue ? Perrine bougea juste à temps pour qu'une flèche le frôle au lieu de lui traverser le foie. Le vrai tueur se tenait très près de lui. Puis il se dématérialisa, laissant derrière lui la magnifique statue qu'il avait fait apparaître pour détourner l'attention de son adversaire. Perrine inspira à fond, puis s'essuya le front. Désormais, Tueur pouvait venir de n'importe quelle direction. À tout hasard, Perrine généra un mur dans son dos, puis il s'y appuya et sonda le toit. Très haut dans le ciel, le dôme tremblait. Perrine ne s'en aperçut presque pas. La structure bougeant avec lui, il ne s'étonnait plus de rien. Sauf que,
Eh bien, lui, il ne bougeait pas. Paniqué, il baissa les yeux sur sa ceinture. L'étui n'était plus là, la flèche qui l'avait frôlée ayant coupé net sa cordelette. Perrine avança jusqu'au bord du toit. Dans la rue, tueur courait à toutes jambes, l'étui dans une main. Un loup jaillit d'une ruelle, bondit et renversa l'ennemi de Perrine. Sauteur. Le jeune homme vola à la rescousse de son vieil ami. Mais tueur se volatilisa, laissant le vieux loup sans proie, et réapparut au bout de la rue. Là, il fonça comme un fou. Perrine le suivit, et sauteur vint se joindre à lui.
« Comment m'as-tu trouvé ?»
demanda le mari de Fail. « Tous les deux, vous êtes des louveteaux idiots. Trop de bruit, comme des chats qui feulent. Facile à repérer. » Délibérément, Perrine n'avait pas transmis sa position à sauteur, pas après avoir vu mourir dans entre les chaînes. De toute façon, c'était sa guerre, pas celle des loups. À présent que le Terangréal était loin du Géaldan, ses hommes en train de s'échapper, il refusait de risquer la vie d'autres loups. Sauteur, lui, n'obéirait pas, même s'il lui disait de partir. Avec un grognement, Perrine se lança aux trousses de tueur, son fidèle ami, à ses côtés. Et Gwen était accroupie contre le mur du couloir. Le souffle court, en sueur, elle regardait des gros éclats de pierre refroidir après une tempête de feu. Dans le couloir, tout était calme. Sur les murs, quelques lampes brûlaient encore. Par une fenêtre, Egwene apercevait le ciel violet entre la tour blanche et l'amas de nuages noirs. Elle aurait juré combattre depuis des heures. En réalité, ça devait faire moins de 15 minutes. Dans le chaos, elle avait perdu de vue les matriarches. Utilisant un dôme de silence pour étouffer le bruit de ses pas, la jeune dirigeante atteignit une intersection et jeta un coup d'œil dans le couloir qui croisait le sien. À gauche comme à droite, ce corridor était plongé dans les ombres. Egwene avança, à la fois prudente et déterminée. La tour, c'était son fief. Et là, elle sentait qu'on avait violé son intimité, comme le jour du raid des Seanchaniens. Mais ce combat avait été très différent du précédent. Contre les Seanchaniens, tout était merveilleusement simple. Un ennemi imprudent, très facile à repérer. Devant la jeune dirigeante, une chisse lumière filtra de sous une porte. Ses tissages préparés, Egwene s'introduisit dans la salle. Deux femmes y murmuraient entre elles. À la lumière que tenait la plus grande, Egwene les identifia très vite. Evan Elaine et Mestra, deux des sœurs noires qui avaient fui la tour. Egwene expédia une boule de feu qui carbonisa Mestra. Quand Evan Elaine couina de terreur, Egwene utilisa un truc que Nineveh lui avait enseigné. Elle imagina que la sœur noire était stupide et incapable de penser ou de réagir. Les yeux d'Evan Elaine se voilèrent et elle ouvrit la bouche. La pensée était beaucoup plus rapide que les tissages. Egwene hésita. Que faire? Tuer cette femme tant qu'elle était vulnérable? À cette seule idée, son estomac se retourna. Je devrais plutôt la capturer, non? Ce serait... Egwene cessa de penser, parce que quelqu'un venait d'apparaître dans la pièce. L'intruse portait une superbe robe noire aux broderies d'argent. Autour d'elle, l'obscurité tourbillonnait, faisant onduler sa jupe. Absolument pas naturel, cet effet n'était sans doute possible que dans le monde des rêves. Egwene sonda le regard de la femme. Ses grands yeux bleus, piqués sur un visage anguleux encadré de courts cheveux noirs, brillaient de puissance. Egwene sut aussitôt de qui il s'agissait. Pourquoi se battre? Elle ne pouvait pas. La jeune dirigeante sentit que son esprit changeait, devenant docile. Paniquée, elle se défendit contre le phénomène. Tirant parti d'un moment de lucidité, elle put se projeter ailleurs. Revenue dans sa chambre, elle s'assit sur le lit et se prit la tête à deux mains. Cette femme était incroyablement puissante. Il y eut un bruit, puis quelqu'un se matérialisa dans la pièce. Egwene se leva d'un bond, des tissages déjà en préparation. Les yeux brûlants de colère, c'était Nineveh. Les mains tendues pour canaliser, elle se retint de justesse.
« Les jardins !»
dit Egwene. Elle n'aurait pas dû retourner dans ses appartements, mais Saana les connaissait trop bien. Nineveh hocha la tête. En un éclair, Egwene se volatilisa et se rematérialisa au milieu des jardins, au rez-de-chaussée de la tour. Dans le ciel, l'étrange dôme violet dominait la ville. Qu'est-ce que c'était? Et comment Messaana avait-elle imposé ce phénomène à Tarvalon? Nineveh se matérialisa à son tour.
« Elles sont encore en haut !»
souffla-t-elle.
« Je viens de voir Alviarine. Moi, j'ai vu Messaana, et elle a failli m'avoir. Lumière, tu vas bien ?»
Egwene hocha la tête.
« Mestra est morte. J'ai aperçu Evan Elaine également. Il fait noir comme dans une tombe là-haut !»
souffla Nineveh.
« C'est à cause de nos adversaires, je crois. » Mais Siouan et Léane vont bien. Il y a peu, je les ai vus lutter côte à côte. Juste avant, j'ai touché Notori avec une boule de feu. Elle est morte. Parfait. L'âge noir nous a volé 19 Terangréal. Ça nous donne une estimation du nombre de sœurs à affronter.
Siouan, Nineveh, Léane, les trois matriarches et Egwene étaient en infériorité numérique. Mais l'âge à noir, en fin de compte, semblait manquer d'expérience du monde des rêves.
Quelqu'un a vu les matriarches ?
Elles sont là-haut,
répondit Nineveh avec une grimace.
Elles semblent bien s'amuser. Ça ne m'étonne pas,
dit Egwene.
Je veux que nous agissions en binôme, toutes les deux. On se matérialisera à des intersections, dos à dos, et on tentera de repérer des adversaires. Si tu vois une sœur noire, frappe sur le champ. Si quelqu'un te repère, dis « on file » et on reviendra ici.
Nineveh hocha la tête.
« La première intersection est dans le couloir de mes appartements. Corridor du côté est. Je l'inonderai de lumière. Tiens-toi prête. De là, nous passerons au couloir supérieur, par la porte qui donne sur la rampe de service. Ensuite, ce sera une intersection après l'autre. »
Nineveh fit signe qu'elle avait compris. Le monde devint flou autour d'Egwene. Dès qu'elle se matérialisa dans le couloir, elle pensa à une explosion de lumière, imposant sa volonté au décor. Tout s'illumina. Une femme au visage rond était accroupie près d'un mur. Vêtue de blanc, c'était Sédorée, une des sœurs, noire. Elle bondit, haineuse, des flux jaillissant de ses mains. Plus rapide, Egwene projeta sa colonne de feu avant celle de son adversaire. La sœur noire écarquilla les yeux alors que les flammes l'enveloppaient. Elle cria, mais la chaleur la réduisit très vite au silence. Carbonisée, son corps s'écroula sur les dalles. Egwene s'autorisa un soupir de soulagement.
« Quelque chose de ton côté ? »
demanda-t-elle à Nineveh.
« Non. Qui as-tu abattu ? Sédorée. Vraiment ?»
Nineveh tourna la tête. Cette femme avait été une représentante de l'âge à jaune.
« Couloir suivant !»
fit Egwene avec un petit sourire. Les deux femmes se projetèrent dans le prochain corridor et répétèrent l'opération. Cette fois, la lumière ne débusqua personne. Du coup, elles ne s'attardèrent pas. Les deux couloirs suivants étaient également vides. Egwene allait donner l'ordre de partir quand une voix siffla.
« Pauvre crétine, ta stratégie est cousue de fil blanc !»
Egwene pivota sur elle-même.
« Qui ?»
Elle s'interrompit en découvrant Beyr. La vieille matriarche avait changé de vêtements et même de couleur de peau pour se confondre avec les dalles et les murs blancs. Cachée dans une alcôve, elle était pratiquement invisible.
« Tu ne devrais pas !»
commença-t-elle. Devant les trois femmes, un mur explosa. Quand les gravats furent retombés, la fumée se dissipant, six sœurs noires apparurent dans la brèche. Sans attendre, elles tissèrent des flux de feu. Le temps de jouer à cache-cache était révolu. Perrine sauta le mur d'enceinte de la tour blanche et se réceptionna de l'autre côté avec un bruit sourd. Dans le rêve des loups, les bizarreries continuaient. À présent, non content de capter des odeurs étranges, il entendait des bruits curieux, du remue-ménage à l'intérieur de la tour. Il suivit Tueur, qui traversait les jardins puis approchait de la flèche blanche. Perrine ne le lâcha pas, bondissant plus qu'il courait. L'étui du terrain gréal accroché à sa taille, Tueur gardait une légère avance. Perrine se dota d'un arc long, puis il s'immobilisa, l'arma et tira. Mais le tueur de loups bondit en hauteur et entra dans la tour par une fenêtre ouverte. Inoffensive, la flèche percuta un mur. Perrine se propulsa jusqu'à la fenêtre et entra à son tour, sauteur sur les talons. Dans une pièce aux tentures bleues, la porte se referma en claquant. Perrine chargea, démolissant le battant avec son marteau pour gagner du temps. Tueur dévalait déjà un couloir.
« Suis-le !»
lança Perrine à sauteur.
« Je vais lui couper la route !»
Le loup fila comme le vent. Perrine courut vers la droite, puis s'engagea dans un couloir. Il courait si vite que les murs se brouillèrent devant ses yeux. Passant devant un corridor qui semblait bondé de monde, il se pétrifia de surprise. Il s'agissait d'Aes Sedai, et elle se battait. Le couloir était vivement éclairé, et des flammèches y crépitaient. Les bruits que Perrine avait entendus plus tôt n'étaient pas des illusions. Donc, déduisit le jeune homme, il y avait...
« Egwene !»
lança-t-il soudain. Le dos contre un mur, la jeune femme sondait un couloir avec une grande concentration. Dès qu'elle entendit Perrine, elle se tourna vers lui, les mains levées. Mais il ne se laissa pas saisir par les flux d'air, car son esprit les repoussa. Egwene parut ne pas en croire ses yeux. Perrine avança vers elle.
« Egwene, tu ne devrais pas être là. Cet endroit est dangereux. »«
Perrine ? » ?»«
J'ignore comment tu es arrivée ici, mais tu dois partir au plus vite. Je t'en prie. »«
Comment as-tu pu échapper à mes flux ? Et que fiches-tu ici ? As-tu vu Rand ? Dis-moi où il est. »
Egwene parlait avec une telle autorité désormais. On aurait presque dit une autre personne.
En tout cas, une femme bien plus mûre que la fille qu'il avait connue. Perrine voulut répondre, mais elle lui coupa la chic.
« Je n'ai pas de temps à perdre, »
dit-elle.
« Désolée, Perrine, je reviendrai te voir. »
Elle leva une main et quelque chose apparut autour du jeune homme. Des cordes qui l'entravaient. Amusé, il baissa les yeux et ses liens glissèrent dès qu'il eut simplement pensé qu'ils n'étaient pas assez serrés. Egwene en resta comme deux ronds de flanc.
« Comment ?»
Quelqu'un sortit d'une pièce, non loin de là. Le cou très long et les cheveux noirs, c'était une grande femme, vêtue d'une fine robe blanche. Elle sourit et leva les mains, une lueur apparaissant devant elle. Perrine n'eut pas besoin de savoir exactement ce qu'elle faisait. Étant un loup, il contrôlait ce rêve. En conséquence, les tissages ne représentaient rien. Pour que l'attaque échoue, il suffisait qu'il l'imagine faisant un fiasco. Une lance de lumière blanche jaillit des mains de la femme. Très calme, Perrine leva une main pour se protéger et défendre Egwene. Comme si sa paume l'avait désintégrée, la lumière se dissipa. Egwene riposta. Au-dessus de la femme, le plafond explosa et des blocs de pierre s'en détachèrent. L'un d'eux percuta la tête de l'inconnu, qui s'écroula aussitôt. Après un choc pareil, elle était sûrement morte. Dans l'odeur d'Egwene, Perrine capta de l'étonnement. Non, de l'émerveillement même.
« Tu as neutralisé des torrents de feu !»
s'écria-t'elle.
« Personne n'est censé pouvoir le faire !»«
Ce n'était qu'un tissage !»
relativisa Perrine. Il tendit un bras pour chercher Sauteur. Où était donc Tueur ?«
Perrine, ce n'est pas qu'un tissage, mais... »«
Egwene !»
coupa le jeune homme.
« Il faut que tu m'excuses, mais je te parlerai plus tard. Dans cet endroit, sois très prudente. Tu dois déjà savoir que c'est recommandé, mais bon, le danger est pire que ce que tu crois. »
Perrine se retourna et fila, laissant Egwene stupéfiée. À première vue, elle avait réussi à devenir une Aes Sedai. Tant mieux, parce qu'elle le méritait.
« Sauteur, où es-tu ?»
En guise de réponse, Perrine obtint une soudaine et terrifiante explosion de douleur, émise par son vieil ami. Gawain luttait pour sa vie, contre trois ombres vivantes composées d'obscurité et d'acier. Ses couteaux du sang le poussant à ses limites, il saignait déjà d'une demi-douzaine d'entailles sur les bras et les jambes. Grâce à la rage du cyclone, il protégeait ses zones vitales, mais ça ne durerait pas. Des gouttes de son sang souillaient la moustiquaire du lit. Si les couteaux du sang avaient déjà tué Egwene, c'étaient d'excellents acteurs, parce qu'ils semblaient toujours chercher à la frapper. Gawain faiblissait de minute en minute. Sur le sol, ses bottes laissaient des empreintes sanglantes. Alors qu'il ne sentait presque plus la douleur, ses parades devenaient anémiques. Encore quelques instants, et ce serait la fin. Même s'il criait à s'en casser les cordes vocales, personne ne se montrait.
« Crétin, tu devrais passer plus de temps à réfléchir et foncer moins souvent vers le danger la tête baissée !»
En braillant comme ça, il aurait dû ameuter la tour entière. S'il était encore vivant, il n'avait qu'une explication, la prudence des couteaux du sang, qui entendait l'épuiser avant de porter le coup de grâce. Quand il serait tombé, les tueurs, comme l'avait dit la Souldame, feraient un massacre dans la tour. Surprise, les Aes Sedai seraient sans défense. Cette nuit, la tour blanche risquait de connaître un désastre pire que lors de l'attaque massive des Seanchaniens. Les trois tueurs avancèrent ensemble.
« Non !»
pensa Gawain, alors que l'un d'eux exécutait une rivière qui mine la berge. Il bondit en avant, se faufila entre deux lames et frappa. Pour une fois, il fit mouche, et un cri retentit dans la pièce. Du sang gicla sur le sol, et une des silhouettes s'écroula. Toute prudence oubliée, les deux couteaux du sang survivant attaquèrent sans retenue. Épuisé, Gawain encaissa une nouvelle entaille sur une épaule. Sous ses vêtements, il sentit du sang couler le long de son bras. Des ombres. Comment un homme pouvait-il espérer affronter et vaincre des ombres? C'était impossible. Là où il y a de la lumière, il y a aussi des ombres. À bout de ressources, une idée désespérée traversa l'esprit de Gawain. En criant, il bondit sur le côté et prit un oreiller sur le lit. Alors que les lames sifflaient autour de lui, il lança l'oreiller sur la lampe, l'éteignant aussitôt. Une fois la chambre plongée dans l'obscurité, il n'y eut plus ni lumière, ni ombre. Égalité parfaite. L'obscurité mettait tout sur le même plan, et dans la nuit, impossible de distinguer les couleurs. En d'autres termes, Gawain ne pouvait plus voir le sang sur ses bras, ni les silhouettes de ses ennemis, et pas davantage la moustiquaire blanche du lit d'Egwene. Mais il entendait ses adversaires bouger. Recourant à un oiseau chanteur qui embrasse du miel de rose, Gawain leva son arme pour porter le coup de la dernière chance, en anticipant les déplacements des couteaux du sang. Comme son esprit n'était plus distrait par les silhouettes des tueurs, il fit mouche, et sa lame s'enfonça dans de la chair. Le jeune homme dégagea son arme et se remit en garde. Dans la chambre, plus un bruit, à part celui de la chute du tueur blessé ou mort. Gawain retint son souffle, le sang battant à ses tempes. Où était le dernier couteau du sang? Aucune lumière ne filtrait dessous la porte. C'est l'arc était tombé là, bloquant toutes sortes de clartés. Gawain commençait à trembler, trop de sang perdu sûrement. S'il trouvait quelque chose à jeter pour créer une diversion, non, il ne valait mieux pas. S'il bougeait, le bruissement de ses vêtements trahirait sa position. Serrant les dents, il tapa du pied, puis leva son arme pour protéger sa gorge, en implorant la lumière que l'attaque soit plus basse. Il fut exaucé, la lame adverse entaillant son flanc. La douleur lui arracha un gémissement, mais il riposta immédiatement avec tout ce qui lui restait de force. Sa lame siffla dans l'air et trouva une cible. La tête du dernier tueur vola dans les airs et rebondit contre un mur. Peu après, Gawain entendit le bruit sourd de la chute d'un corps. Le jeune homme s'appuya au lit, le flanc poisseux de sang. Était-il en train de perdre connaissance? Dans une pièce obscure, difficile de dire si sa vision se brouillait. Il tendit un bras pour prendre la main d'Egwen, là où il supposait qu'elle était, mais il se révéla trop faible pour la trouver. Alors, il s'écroula comme une masse, sans savoir si la femme qu'il aimait était vivante ou morte. Une dernière pensée, terrifiante.
« Grande maîtresse !»
dit Catherine, en s'agenouillant devant Messaana.
« Impossible de trouver l'objet que tu nous as décrit. Une moitié de nos femmes le cherche, pendant que les autres combattent la vermine qui nous résiste. Mais il n'est nulle part. »
Messaana croisa les bras et se plongea dans une profonde réflexion. Puis, d'une simple pensée, elle abattit sur le dos de Catherine plusieurs lanières d'air. Aucun échec ne devait rester impuni. La rigueur se révélait la clé de toutes les formes de dressage. Au-dessus de l'élu, la tour blanche était sans dessus-dessous. Mais ici, Messaana n'avait rien à craindre. Dans cette zone, elle avait imposé sa volonté, créant une nouvelle pièce sous les entrailles de la tour, une sorte de poche forée dans la pierre. Les gamines qui se battaient là-haut croyaient tout connaître du monde des rêves, mais ce n'étaient que des idiotes. Un siècle avant son emprisonnement, Messaana venait déjà régulièrement en Tel Aran Riod. La tour trembla de nouveau. Avec soin, l'élu fit le point sur sa situation. D'une façon ou d'une autre, les Aes Sedai avaient trouvé une pointe des rêves. Comment avait-elle pu localiser un tel trésor? Aux yeux de Messaana, contrôler ce terrain gréal était presque aussi intéressant que de tirer les ficelles de la chair d'Amerline juvénile et Gwen Alvéré. La possibilité d'interdire toute ouverture de portail dans son fief. Eh bien, c'était un outil capital, surtout quand on envisageait de se retourner contre les autres élus. Ce terrain gréal, bien plus efficace que les tissages de garde, protégeait aussi des intrusions les rêves d'une personne. Et sauf autorisation spécifique, il interdisait toute tentative de voyage dans une zone déterminée. Cependant, même avec la pointe des rêves, elle ne pourrait pas déplacer la bataille contre les gamines vers un meilleur endroit soigneusement sélectionné. Agaçant, ça. Mais pas question de s'abandonner à des émotions face à de pareilles circonstances.
Remonte dans la tour et concentrez tous vos efforts sur la capture d'Egwen Alvéré. Elle saura où est l'artefact.
Oui, c'était d'une évidence limpide. Avec cette stratégie, Messaana ferait d'une pierre deux coups.
Oui, grande maîtresse.
Toujours recroquevillée sur elle-même, Catherine gémissait sous la morsure des lanières d'air. Comme si elle les avait oubliées, Messaana dissipa distraitement les tissages. Simultanément, une idée lui traversa l'esprit.
« Attends un peu, »
dit-elle à Catherine.
« Je vais placer un tissage sur toi. »
Perrine se matérialisa au sommet de la tour blanche. Tueur tenait Sauteur par la peau du cou. Une flèche dans le flanc, le loup saignait abondamment. Le vent emporta une partie de son fluide vital, le répandant sur le sol.
« Sauteur !»
Perrine avança d'un pas. Il captait encore l'esprit de son ami, mais très faiblement. Tueur tenait sans peine sa proie à bout de bras. De l'autre main, il leva un couteau.
« Non !»
dit Perrine.
« Tu as ce que tu veux. Va-t'en !»«
Et ce que tu disais un peu plus tôt ?» demanda Tueur. « Tu sauras où j'irai et tu me traqueras. De ce côté de la réalité, la pointe des rêves est trop facile à localiser. » Presque distraitement, Tueur jeta le loup dans le vide.
« Non !»
cria Perrine. Il sauta sur le côté, mais Tueur se matérialisa à côté de lui, lui prit le bras et leva son arme. L'élan de Perrine les projeta tous les deux dans le vide. L'estomac retourné, le jeune homme sentit qu'il tombait à une vitesse folle. Il essaya de se décaler, mais Tueur le tenait fermement, et il ne ménageait pas ses efforts pour le garder là où il était. Les corps des deux hommes fluctuèrent pendant un moment, mais ils continuèrent à tomber. Tueur était incroyablement fort. En outre, il empestait le rance et le sang de loup. Alors que Salam cherchait la gorge de Perrine, celui-ci put seulement lever un bras pour la protéger, en imaginant que sa chemise était aussi dure que de l'acier. Tueur appuya plus fort. Perrine eut un instant de faiblesse, sa blessure au torse pulsant follement, alors que son adversaire et lui continuaient à tomber. Le couteau coupa la manche du jeune homme et s'enfonça dans sa chair. Perrine hurla de douleur. Le vent rugissait si fort. La chute, en fait, durait depuis quelques secondes. Tueur dégagea sa lame de la plaie.
« Sauteur !»
En rugissant, Perrine flanqua des coups de pied à Tueur, le repoussant et brisant son étreinte. Son bras le torturant, il se retourna dans l'air. Le sol approchait à une vitesse folle. Sa volonté mobilisée pour être ailleurs, Perrine se retrouva plus bas que le loup, le rattrapa au vol, puis atterrit rudement. Ses genoux faillirent se dérober et le sol se fissura autour de lui. Mais Sauteur était miraculeusement indemne. Une flèche à l'empennage noir tomba du ciel, se ficha dans le dos du loup, lui traversa le corps et finit sa course dans la cuisse de Perrine, qui s'était agenouillée à côté de son ami. Le jeune homme cria, sa propre douleur se mêlant à celle terrible de Sauteur. Déjà, l'esprit du loup disparaissait.
« Non !»
cria Perrine, des larmes aux yeux.
« Jeune taureau !»
Perrine essaya de se décaler, mais ses idées étaient embrouillées. Bientôt, une autre flèche tomberait. Il le savait. Quand elle arriva, il réussit à l'éviter. Mais sa jambe blessée menaçait de céder sous lui. Et Sauteur était si lourd. Il se laissa tomber à genoux et lâcha le loup. Tueur atterrit non loin de là, son arc noir au poing.
« Adieu, Perrine Aibara, »
dit-il en encochant une flèche.
« On dirait bien que j'aurais tué 5 loups aujourd'hui. »
Perrine leva les yeux vers la pointe de la flèche. Autour, tout était flou.
« Je ne peux pas abandonner Fail, ni Sauteur, et je ne le ferai pas. »
Alors que Tueur lâchait son projectile, Perrine imagina qu'il était fort et solide, pas faiblard du tout. Soudain, il sentit son cœur redevenir sain et puissant, et ses artères se gorgèrent d'énergie. Il cria, sa lucidité suffisamment revenue pour qu'il se volatilise et se rematérialise derrière Tueur. Alors, il abattit son marteau. Tueur se retourna et bloqua le coup avec son bras, presque distraitement, qui se révéla extraordinairement puissant. Sa jambe lui faisant toujours un mal de chien, Perrine se laissa tomber sur un genou.
« Tu ne guériras pas tout seul, » dit Tueur. « C'est faisable, mais t'imaginer indemne ne suffira pas. Cela dit, tu sembles avoir trouvé comment renouveler ton sang, ce qui est très utile. »
Perrine capta une odeur, celle de la terreur. Était-ce la sienne ? Non, ça ne venait pas d'ici. Dans le dos de Tueur, une porte donnait sur la tour blanche. À l'intérieur, les ténèbres régnaient. Pas une simple obscurité, mais bel et bien les ténèbres. Après tant d'entraînement avec Sauteur, Perrine n'eut aucun mal à identifier le phénomène. Un cauchemar. Alors que Tueur ouvrait la bouche pour ajouter quelque chose, Perrine se jeta sur lui comme un taureau et le percuta. Sa jambe protesta, mais il l'ignora. Ensemble, ils basculèrent dans les ténèbres absolues du cauchemar.